France Culture.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
L'Iran n'est pas la vie, portrait d'une dynastie, ce n'est pas rien tout de même, un changement de dynastie. C'est le cas en Iran dans les années 1920. Les Qadjars sont remplacés par les Pahlavis, simple révolution de palais ou complète transformation du pays. Reza Shah Pahlavi, puis Mohammad Reza Shah Pahlavi, le père, le fils qui règne sur l'Iran de 1925 à 1979, quand les Pahlavis sont renversés par la révolution islamique. Mais d'ailleurs, comment est-elle née, cette dynastie? Élément de réponse historique depuis Persépolis.
La vérité, c'est qu'il y a 50 ans, le père du Shah, qui était alors officier, voulait renverser l'empereur Qadjar pour instaurer une république.
Je ferai comme Atatürk, je moderniserai ce pays et je ferai une république.
Mais les Anglais avaient eu vent du projet. Et un jour...
Bonjour. Pourquoi tu veux faire une république alors que tu pourrais être empereur?
Moi? Empereur!
Bien sûr, c'est mieux que président. Tu auras tous les pouvoirs.
Et que dois-je faire?
Rien. Tu nous donnes le pétrole, nous nous occuperons du reste.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Persépolis, le sublime film de Marjan Satrapi, c'était en 2007. Bonjour Oliver Bast.
Bonjour.
Vous êtes historien, professeur à l'université Sorbonne Nouvelle, vous êtes spécialiste, et ça tombe bien, de l'histoire contemporaine de l'Iran. Et avec vous aujourd'hui, Salomé Michel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en langue, civilisation et sociétés orientales. Avec vous deux, nous allons saisir qui sont les Pahlavis. L'extrait qui a été donné ici de Marjan Satrapi nous conduit tout de suite en Iran. Oliver Bast, mais nous parlons des Pahlavis. Qu'y a-t-il avant les Pahlavis? Ce sont les Qadjars, c'est bien cela?
Absolument, effectivement, ce sont les Qadjars.
Comment les Qadjars traversent-ils la Première Guerre mondiale? Parce qu'il y a ce moment aussi, Première Guerre mondiale, qui va nous permettre de saisir comment cette dynastie iranienne, les Qadjars, a pu être fragilisée.
Et oui, enfin, la Première Guerre mondiale et tout ça, c'est que passé autour de cette guerre est absolument primordial pour comprendre l'avènement de la dynastie Pahlavi. Il faut comprendre cette Première Guerre mondiale qui se déroulait en Iran, qui était officiellement resté neutre dans ce conflit. Donc son corps défendant, il faut le comprendre dans le contexte international d'un côté et dans le contexte national des développements en Iran qui ont commencé se passer tout au long d'une transformation qui a eu lieu déjà durant le 19e siècle et qui a suivi son cours et qui a culminé dans une révolution, la révolution constitutionnaliste dont vous avez parlé dans l'émission précédente, et qui se déroule aussi parallèlement dans un contexte des relations entre des grandes puissances qui ont des ambitions dans la région, notamment la Russie et la Grande-Bretagne. Et pour commencer comprendre le contexte historique, il faut remonter peut-être à 1907. C'est en 1907 que, d'un côté, l'Iran a donc connu cette révolution constitutionnaliste, est devenue une monarchie constitutionnelle. Et de l'autre côté, les deux grandes puissances voisines, la Russie et la Grande-Bretagne, qui étaient vraiment affrontées dans une rivalité acharnée pour des concessions en Iran, pour le contrôle du pays. Ces deux grandes puissances s'entendent. Et donc, ça c'est fondamental, parce que jusque-là, les dirigeants iraniens, même si l'Iran sous le Raja n'était pas très fort, ils ont pu utiliser cette rivalité pour manœuvrer, pour jouer une puissance contre l'autre. Dans le cadre des développements qui ont aussi beaucoup à voir avec l'Europe, avec la constellation des pouvoirs liés à la politique étrangère de l'Allemagne, et ces deux grandes puissances décident de mettre à côté leurs différences et de s'entendre. Pour ça, ils divisent, sans demander rien que ce soit aux Iraniens, le pays en deux zones d'influence. dans leur fameuse entente russo-anglaise de 1907. Et donc, c'est là, vraiment, maintenant, on a déjà vu tout au long du 19e siècle la pénétration pacifique, économique, commerciale et politique de l'Iran par ces deux puissances, ce qui a eu, ce qui a donné lieu à une colonisation qui ne donnait pas, qui ne disait pas son nom, parce que nominalement l'Iran reste indépendant. Et maintenant, c'est formalisé. Et le pays est divisé en deux. De l'autre côté, et donc, ça laisse vraiment croire que la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Iran est maintenant mise en cause. Même s'il y a des déclarations par rapport au maintien de la dynastie, de l'intégrité, etc. Si deux grandes puissances s'entendent sur un pays sans le consulter, voilà, c'est ça qui se donne. De l'autre côté, il y avait la révolution. La révolution, donc au moins une partie des révolutionnaires a un projet de modernisation, un projet de vouloir vraiment maintenant embarquer sur un chemin qui va renforcer le pouvoir central, qui va construire des chemins de fer, des routes, modernisation de l'armée, pour justement faire face à cette tendance de pénétration et de quasi-colonisation. Et donc, il y a, à partir de ce moment, deux projets qui s'affrontent en Iran. Le projet des grandes puissances qui va vers le déchirement de l'Iran, potentiellement même la perte de souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Iran, et le programme des révolutionnaires, au moins de cette partie des révolutionnaires qu'on peut considérer comme nationaliste, avec un projet de modernisation. Et donc, durant la Première Guerre mondiale, ces deux projets vraiment collident. Ce côté nationaliste, volonté de réforme et de modernisation, a des espoirs en les puissances centrales, en Allemagne, en Autriche, Hongrie. On peut, sur le principe, l'ennemi de mon ennemi, mon ami. Et il pense à un moment donné, au moins au début de la guerre, que le moment est venu pour utiliser ce conflit qui arrive du côté des Iraniens par le biais de l'entrée en guerre de l'Empire ottoman aux côtés de ces puissances centrales, ce qui n'était pas attendu en Iran au début. Donc, de saisir ce conflit où les puissances centrales affrontent la Russie et la Grande-Bretagne, les deux puissances dangereuses, entre guillemets, virer d'un autre côté, peut-être se libérer. Et de l'autre côté, bien sûr, ces deux grandes puissances veulent tout faire pour que l'Iran ne leur échappe pas. Et donc, il y a un accord entre les deux puissances en 1915 qui va encore renforcer cet élément de division et de partage de l'Iran. C'est dans le cadre des fameux accords donc de Constantinople que la Grande-Bretagne et la Russie décident même de diviser l'Iran tout simplement en deux parties. Et cette guerre-là va se dérouler et finalement ces espoirs des nationalistes modernisateurs, les révolutionnaires de l'époque vont pas se réaliser et nous nous retrouvons à la fin de la Première Guerre mondiale à une situation où les élites iraniennes doivent faire face à la Grande-Bretagne. Et c'est dans ce cadre-là, on va peut-être en parler encore, se déroule finalement l'avènement de la dynastie Pahlavi.
Parce que nous avons ici, dans ce début du XXe siècle, Oliver Bast, et je l'entends bien, les Qadjars confrontés à ce qui se passe à l'intérieur du pays, ces réformes constitutionnalistes, ces réformes économiques aussi, et les voisins qui sont en kikinant. Alors voisins au sens de la Russie qui est proche, et puis au sens de la Grande-Bretagne par ses colonies qui est présente. Salomé Michel, la démarche adoptée par Oliver Bast ici, c'est celle que l'on doit adopter quand on réfléchit à l'histoire de l'Iran, que ce soit au début du XXe siècle, et durant tout le XXe siècle, et aujourd'hui encore, c'est ces tensions internes, en prenant en compte ce qui se passe à l'international, tellement l'Iran est un enjeu stratégique.
Oui, tout à fait. Et puis, on voit très bien que ces dynamiques domestiques, ces dynamiques à l'intérieur du pays, sont toujours à penser en miroir de ce qui se passe à l'échelle internationale. Et on voit l'impact que la Première Guerre mondiale, que cette double occupation aussi du pays à un moment donné va avoir sur la légitimité simplement à l'échelle domestique du pouvoir. Qadjar. Et c'est aussi dans ce contexte-là qu'on peut comprendre l'accession au pouvoir donc de Reza Khan, qui est donc un officier de brigade cosaque, qu'on pourrait dire dans une certaine mesure rien ne destinait au premier abord à devenir plus tard Shah de Perse. Et donc cette ascension, elle est progressive. Elle s'inscrit elle aussi en plein dans cette question de l'influence des Britanniques en Iran. Et pour plusieurs raisons. D'abord parce que on va avoir un souverain Qadjar qui va être au sortir de la guerre. Et là on passe la porte des presque des années 20. Au sortir de la guerre, on va avoir un accord qui va être conclu. L'accord anglo-persan de 1919 avec l'Iran Qadjar, et qui va susciter une vague de désapprobation populaire et ne jamais être ratifié par le Parlement. Et la mauvaise perception qui règne de cet accord va aussi participer à fragiliser le pouvoir central Qadjar. En plus de ça, on peut mentionner aussi au même moment à la fin de la décennie 1910, mais surtout début de la décennie 1920, des velléités séparatistes ou indépendantistes qui vont avoir lieu qui vont prendre place dans plusieurs endroits du pays, notamment au nord, dans le Gilan et au Khuzestan. Donc ces volontés séparatistes, elles ont des origines un petit peu différentes, elles ont des natures un petit peu différentes. On en a une qui est plutôt une revendication d'autonomie sur une base de différenciation ethnique, linguistique et aussi dans une certaine mesure religieuse. Et de l'autre, on a vraiment, donc ça c'était pour le cas du Khuzestan, et dans le cas du Gilan, on a un mouvement qui est bien davantage politique. C'est aussi une forme de remise en cause de l'autorité centrale, etc., mais d'un type un petit peu différent, puisque beaucoup plus politique, dans la mesure où on avait un modèle, si vous voulez, politique proposé, qui prenait lui-même pour modèle la Russie, et en particulier les bolcheviks, donc la Russie soviétique, pardon, et les bolcheviks. Et donc on va avoir une entité politique autonome, la République socialiste soviétique du Gilan, donc qui va s'établir pour un laps de temps extrêmement court, donc 1920-1921, et qui va avoir ses propres institutions, qui va avoir aussi ses forces armées. Et donc tout ça, ça participe aussi donc à la fois à ce jeu, si vous voulez, entre dynamique globale et internationale et dynamique à l'échelle domestique, et participe en ça aussi à fragiliser durablement le pouvoir Qadjar. Et donc c'est dans ce contexte-là que va avoir lieu l'ascension progressive, extrêmement progressive, puisqu'elle se déroule sur plus de environ 5 ans, jusqu'à consolidation vraiment ferme du pouvoir Pahlavi. Donc de ce jeune brigadier cosaque Reza, qui deviendra donc le premier Shah de la dynastie Pahlavi.
Voilà, vous avez raison d'évoquer le processus Salomé-Michel, parce qu'en 1921, c'est un coup d'État, et la déposition du dernier Qadjar à Matcha, c'est 1925. Donc il y a tout un temps. Oliver Bast, ce coup d'État de 1921 est conduit par qui ? Parce que ce n'est pas une évidence, et on entend bien ici qu'au sortir de la Première Guerre mondiale, les tensions sont nombreuses à l'intérieur de l'Iran.
Oui, il faut peut-être remonter un peu en arrière quand même, parce que on a parlé de ces deux programmes qui s'affrontent dans la guerre. Et il y a bien sûr, Salomé vient d'en parler, un grand événement quand même qui change beaucoup la donne. Donc c'est la défaite des puissances centrales d'un côté, mais il y a aussi les révolutions consécutives en Russie, qui vont finalement se solder par la prise de pouvoir à Petrograd des bolcheviks. Et donc, un changement de régime en Russie qui, de la part du leadership bolchevique au début, semble tout à fait favorable à cette volonté de se débarrasser de l'ingérence de ces deux grandes voisines. Des déclarations qui sont faites au peuple de l'Orient de la part des bolcheviks en 1918. Mais finalement, une situation donc à l'issue de cette guerre où la seule grande puissance qui pèse pour l'instant vis-à-vis la Perse, vis-à-vis l'Iran, ce sont les Britanniques. Et il y a à Londres, voilà, une volonté notamment d'une personne qui est le ministre des Affaires étrangères, qui le devient dans ces années-là, Lord Curzon, qui est l'architecte de la politique britannique vis-à-vis l'Iran, et qui poursuit une politique qui veut renforcer l'Iran sous la tutelle britannique, avec l'optique d'en créer une barrière contre toute tentative contre l'Inde, qui est quand même dans les préoccupations de Curzon primordiales. Ils ajoutent un autre élément qui pour l'intérêt des Britanniques maintenant, et ça c'est le pétrole dont on n'a pas encore parlé. Les Britanniques, ou un entrepreneur britannique a obtenu une concession en 1901 par rapport à l'exploitation du pétrole, qui n'était pas encore trouvé à ce moment-là. Finalement, ça a abouti en 1908 à donc exploitation de pétrole, la création d'une société britannique d'exploitation des ressources de pétrole. Et au début, ce pétrole est plutôt utilisé, ou le pétrole à l'époque est utilisé pour les lampes. Du coup, d'ailleurs, le pétrole iranien n'est pas du tout utile pour ça. Et c'est trop lourd. Mais ce qui sauve la société, qui était sur le point de faillite à la veille de la Première Guerre mondiale, est la décision de la Grande-Bretagne donc de changer le fuel de sa marine et il y a maintenant et donc en utilisant le pétrole au lieu de charbon, il y a maintenant intérêt stratégique aussi de la part du gouvernement britannique d'avoir accès à des ressources pétrolières à un prix abordable, pour ne pas devenir notamment la victime des surenchères de la part des sociétés américaines, qui dominent à l'époque le marché pétrolier. Et donc, le gouvernement iranien britannique prend contrôle financièrement de cette société privée, et de toute façon, la situation aussi telle qu'elle, et on va en revenir là-dessus, que la grande partie des profits de cette exploitation reviennent aux actionnaires britanniques, donc en l'occurrence l'État, tandis que l'Iran a à peu près droit à 16% seulement des profits. Il faut garder ça en tête aussi, si on parle de l'intérêt de la Grande-Bretagne à laisser issue de la Première Guerre mondiale vis-à-vis l'Iran, sauf il faut pas non plus exagérer à ce moment-là l'aspect pétrolier. Curzon pense en tant que impérialiste. Il est même parfois un peu inquiété par les questions pétrolières. Pour lui, c'est la sécurité d'Inde. Et c'est pour ça qu'il se préoccupe de la Perse. Mais il y a quand même, dans cette situation-là, des possibilités pour les dirigeants iraniens de manœuvrer encore. Parce que notamment, il y a sur la scène maintenant le discours wilsonien, l'importance accrue des États-Unis, qui sont entrés tardivement en guerre en 1917, et l'espoir que, justement ici à Paris, en 1919, va naître un nouvel ordre mondial. Avec la conférence de paix, que tout le monde croit vraiment à l'aune des discours wilsoniens, du droit de disposer eux-mêmes des peuples, la fin de la colonisation, la fin des accords secrets et tout ça. Et les Iraniens, en effet, le gouvernement iranien essaie de gagner sa place à cette conférence de paix ici à Paris. Il envoie une délégation, mais finalement, ils ne sont pas entendus. Et c'est dans ce cadre-là que cette fameuse accord l'accord auquel Salomé a fait allusion, l'accord de 1919, entre le gouvernement iranien et le gouvernement britannique est conclu. Et l'idée de cet accord est dans un côté britannique, bien sûr, cette programme de Curzon qui veut un protectorat, qui veut un classique de protection d'Inde. Et quand même, l'idée des dirigeants iraniens de pouvoir finalement mettre en œuvre ce programme de la révolution, ce programme de la modernisation, ce programme de la modernisation de l'armée, de créer des infrastructures de transport, de moderniser le commerce, etc. Mais, comme Salomé l'a déjà bien mentionné, cet accord ne va pas aboutir. Il y avait aussi des espoirs, d'ailleurs, des Iraniens que finalement, les Britanniques vont aider à accéder à la conférence de paix. Ça ne marche pas non plus. Et nous sommes donc maintenant à la veille de cette coup d'État sur lequel vous m'avez demandé. En 1920, le gouvernement qui a conclu l'accord est finalement remplacé. Il y a ces défis séparatistes dont Salomé a parlé, notamment aussi donc les bolcheviks sont venus, ils ont occupé une partie du pays. Et maintenant, il y a toujours Curzon qui n'abandonne pas l'espoir de faire valoir cet accord, mais il y a aussi du côté britannique, notamment du côté des militaires, une volonté de désengager de cette région, parce que c'est clair, la Grande-Bretagne aussi du côté du Premier ministre a trop des endroits où elle doit s'engager. En Europe, en Irlande, la crise irlandaise éclate aussi à ce moment-là. Il y a aussi le défi de la gauche, de la classe ouvrière en Grande-Bretagne, sur l'île elle-même. Et donc, il faut vraiment trouver un moyen de réduire. Il y a une fatigue d'engagement de la part de la population, de la part des payeurs des impôts. Donc, et il y a aussi des défis dans la région. Il y a la révolution lancé contre le mandat en Irak, de l'autre côté. Et donc, il cherche à se désengager. Et là naît l'idée de pouvoir, dès la part des militaires, de mettre un gouvernement fort d'un militaire à Téhéran qui peut plus ou moins s'occuper lui-même de la sécurité, notamment contre les différentes menaces aussi des bolcheviks, et pour que la Grande-Bretagne peut réduire sa présence. Et ça, c'est, si on écoute les explications, les idées reçues qui existent, même qui ont trouvé leur expression dans cette petit clip qu'on a écouté.
Persepolis.
Voilà. Et on a dit, voilà, les Britanniques ont fait ça pour mettre la main sur l'Iran dans un certain sens. Et c'est le contraire. Le coup a été lancé. Reza Shah a été trouvé comme, le futur Reza Shah a été trouvé comme l'officier qui va l'exécuter avec l'idée de pouvoir un peu réduire son engagement là-bas. De donner ça entre les mains de quelqu'un qui sera capable de gérer. Et il y a de toute façon aussi une autre notion reçue qui existe. On parle du coup de Reza Khan en 1921.
Le coup d'État, c'est ça.
Un coup d'État qui, en effet, un coup d'État qui s'appuie sur la présence et le contrôle de Britanniques de la seule vraie force militaire qui existe dans le pays, la division des Cossacks, dont vous avez sans doute parlé aussi déjà dans l'autre émission, et qui est une formation militaire organisée selon le principe des Cossacks russes, où il y a aussi des officiers russes, mais les soldats iraniens. Et les Britanniques ont beaucoup de problèmes parce qu'ils financent cette unité, mais c'est jusqu'à la fin de l'année 1920, contrôlé par un officier qui est hostile. Mais finalement, ils réalisent à prendre le contrôle. Et ils trouvent aussi leur homme pour faire le coup d'État, qui n'est pas Reza Khan. C'est un personnage qui s'appelle Zayed Ziauddin Tabatabai, qui est un homme politique, qui est quelqu'un qui publie un quotidien, Ra'at, qui était le confident du premier ministre Wousoukou Dole, qui a traîné en Russie durant la guerre, pour être un peu les oreilles et les yeux du gouvernement, qui a exécuter des missions, effectuer des missions diplomatiques, et qui a un programme radical, et qui s'inspire un peu de ce qui se passe dans l'Empire ottoman. Il est aussi clairement inspiré des idées islamistes, qui sont plutôt, qui viennent plutôt de l'Égypte de l'époque. Et c'est l'homme que les Anglais ont choisi pour être le visage de ce coup d'État. Notre Reza Khan, notre futur Reza Shah, à ce moment-là, n'est que l'officier qui a fait carrière dans cette unité des Cosaques jusqu'au niveau colonel, qui va effectuer, parce qu'il se trouve que son régiment se trouve proche de Téhéran à ce moment-là. Et donc, le coup d'État, c'est pas tellement le coup d'État de Reza Khan, mais le coup d'État de Zayed Zia.
Zayed Zia, qui est un journaliste, qui est anglophile, et on sait bien que dans un coup d'État, il y a toujours besoin d'un sabre, et ce sabre-là, c'est celui du futur Reza Shah. Avec Salomé Michel, la place de ce personnage dans cette histoire-là, votre thèse s'intitule « Le Shah, le parti et les médias, une étude de l'idéologie, pas la vie ». Vous intéressez surtout à la dernière période, hein, dans les années 1970. Salomé Michel, une thèse réalisée sous la direction de...
D'Oliver Bast.
Oliver Bast qui est présent avec nous. Quelle place Reza Shah occupe dans cette histoire? Parce que 1921, le coup d'État, le sabre, c'est lui. 1925, il devient le Shah. Que se passe-t-il dans cette période? Comment devient-on Shah tout simplement? Parce que est-ce reprendre simplement ce qu'il y a par le passé, ce que proposaient les Qadjars, ou est-ce inventer quelque chose de nouveau? Oliver Bast nous a dit que le modèle, c'était Atatürk, qui a fait de l'Empire ottoman, la Turquie, une république.
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, on aurait tendance à répondre les deux. Il s'agit à la fois de se poser comme le prolongement de certaines traditions, et notamment, évidemment, de la tradition monarchique, en l'occurrence. Même ça, c'est pas fait sans heurts et sans hésitation. On va y revenir dans un instant. Et se placer aussi, en rupture avec cette tradition, et d'inventer aussi, tout simplement, une nouvelle tradition. Et donc, effectivement, Reza Khan a été le sabre de ce coup d'État. Son talent a aussi été sa capacité à voir plus loin que la pointe de son épée, en quelque sorte, et à véritablement mettre stratégiquement de côté son partenaire, en quelque sorte, donc Seyyed-Ziyaeddin Tabatabai, dans une prise de pouvoir qui s'est avérée vraiment graduelle, et donc qui a commencé effectivement par ce coup d'État, donc cette marche de Qazvin vers Téhéran dans la nuit du 20 au 21 février 1921, mais qui, voilà, à l'issue de ce coup, Reza n'a pas la position gouvernementale qu'il aurait espéré avoir, n'a pas la position de force qu'il aurait espéré avoir puisque c'est effectivement Tabatabai qui va être nommé premier ministre. Et Reza Khan, pardon, aurait souhaité au moins le poste de ministre de la guerre, et en réalité, donc il sera nommé seulement Sardar-e Sepa, donc le chef des armées, hein, en quelque sorte, et il va seulement un petit peu plus tard être nommé ensuite ministre de la guerre. Et dans cette période, effectivement, on voit déjà le développement un début d'affirmation d'un projet politique, et certains pourraient dire aussi idéologique, dans la mesure où il va mettre à profit ce temps qui va passer à la tête des armées et en tant que ministre de la guerre, afin de véritablement moderniser l'appareil militaire de l'État iranien. Et donc effectivement, il y a cette désinspiration qui lui viennent de la Turquie. Il faut vraiment insister sur le fait que Mustafa Kemal Atatürk était vraiment une figure qui a inspiré Reza Khan, puis Reza Shah. Et donc cette modernisation commence avant même que le futur soit souverain et affirmer un pouvoir politique vraiment fort, ou du moins une place de premier plan et sans concurrent au sein des hautes instances de l'État Qadjar. Et donc il va falloir cette mise à l'écart progressive de Tabat Tabori, qui va advenir somme toute assez vite, dans la mesure où en 1923 on a déjà ce remplacement, étant donné que Tabat Tabori va tomber vraiment en disgrâce et l'était déjà plus ou moins depuis le coup, dans le sens où il a jamais eu des excellentes relations avec Ahmad Shah. Et on a donc cette ascension qui va vraiment se consolider à ce moment-là, dans le sens où Reza Khan va devenir premier ministre. Et tout ceci, je le rappelle, vis-à-vis de la toile de fond que constitue un affaiblissement chaque jour plus important du pouvoir impérial Qadjar. Et donc c'est dans ce contexte-là qu'on va avoir Reza Khan qui va être propulsé comme modèle, comme leader, si vous voulez, chef charismatique, un petit peu unique en quelque sorte solution. Meilleure solution ou unique solution pour assurer justement la stabilité et aussi la réforme du pays tant appelée par les intellectuels. Et donc ces intellectuels, ils vont vraiment soutenir dans une certaine mesure ils soutenaient ce projet de réforme et vont avoir l'espoir en tout cas de voir Reza Khan Reza Pahlavi à partir de 1925 incarner ce tournant modernisateur, ce tournant de renforcement, d'affirmation d'un État-nation moderne en Iran.
Avec en 1925 Reza Shah qui donc renverse les Qadjars et qui instaure une nouvelle dynastie, les Pahlavis. Mais quel genre de souverain est-il ?
Sa Majesté Reza Shah, soutenu par toute l'opinion publique persane, désire avant tout l'indépendance absolue du pays et pour cela tient résolument à ne pas prendre parti dans la politique extérieure de l'un ou de l'autre de ses voisins immédiats. La Perse veut également rendre plus vivaces les liens qui l'unissent à ses amis plus lointains. Au premier rang de ceux-ci, elle place la France. Il y a là de la part de mon pays un véritable désir de paix, non seulement par amour de la paix, mais aussi par intérêt national. En effet, Sa Majesté Reza Shah Pahlavi, après avoir lutté pendant plusieurs années pour l'organisation d'un pouvoir centralisé, d'une armée bien organisée et animée d'un esprit national, pour la réalisation de finances saines et d'un budget équilibré, tient à faire avancer le pays sur la voie du développement économique, pour lequel la paix et l'aide des puissances étrangères lui sont nécessaires.
France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Raphaël Laloum qui nous lisait ici le journal Le Temps du 23 novembre 1926, dans lequel un ministre de la cour de Reza Shah Pahlavi s'exprime à propos de son souverain, Oliver Bass. Je pense que ce ministre, vous avez écouté, puisque dans ce que nous venons d'entendre, dans ce qu'il dit, il y a ces deux aspects, l'indépendance absolue, les liens avec les voisins, l'importance de la politique extérieure, et puis pour l'intérieur, le pouvoir centralisé, les finances saines et le développement économique. Pahlavi, d'ailleurs, pourquoi Pahlavi, cette dynastie? Parce que c'est pas rien d'instaurer une dynastie, il faut se trouver un nom et un héritage. Pahlavi, ça a une signification?
Déjà, installer une dynastie, justement, parlons de cet aspect-là. Donc, comme on a vu, Zedian n'a que resté vraiment 100 jours. Il y a après un espèce de mini coup d'État encore contre lui, parce que lui, il est trop radical. Il a mis en prison tout de suite avec aussi ses ministres, qui sont tous des jeunes, qui partagent ses vues, toutes les élites Qadjar. Et c'est là où Reza Khan, finalement, trouve un angle d'attaque. Il fait un pacte avec ses anciennes élites, dans un premier temps, et qui ont vraiment pris peur, parce que voilà, il y a cet homme très radical à la tête qui veut tout changer d'un seul coup. Et Reza a compris que voilà, ça ne marche pas comme ça. Donc, il arrive dans cette alliance, donc de se débarrasser de Seyed Zia. Et comme Salomé vient de l'expliquer, au fur et à mesure, d'abord il exécute donc une campagne pour renforcer le pouvoir central, et ensuite il devient premier ministre. Et il y a cet expériment en 1924 avec l'idée peut-être de créer une république, mais qui probablement pas le vrai désir de Reza Khan. C'est plutôt un ballon d'essai qui est finalement aussi censé de voir où sont les éléments radicaux dans le Parlement. Et finalement, il y a aussi notamment l'ulema. Et là, on va revenir, l'ulema qui finalement nous a donné la République islamique. Donc les clercs chiites qui se prononcent contre toute idée républicaine. Pour eux, c'est anathème. Le principe monarchique est aussi un principe religieux pour eux. Et donc, cette idée est laissée tomber. Et finalement, c'est le Parlement quand même que le Premier ministre Reza Khan a pu remplir des forces plutôt favorables à lui, et ce sont beaucoup de ces gens-là qui ont toujours ces projets de modernisation qu'on connaît déjà de la Révolution, mais qui sont maintenant prêts à accepter que ça va se faire dans un cadre avec un homme fort. Et ils votent au Parlement le changement de dynastie. C'est pas qu'il y avait encore un coup ou quelque chose, il y a aussi pas beaucoup d'envie de la part du jeune monarque Qajar à continuer nécessairement dans ces contextes-là. Et donc le Parlement vote en changement à la fin de l'année 1925. Il y a que 5 votes, je crois, contre au Parlement, le changement de dynastie. Parmi ces personnes qui ont voté contre, il y a une personne qu'on va rencontrer très bientôt encore, un certain monsieur Mossadegh. Ces changements de dynastie est quand même un changement de dynastie qui se construit dans un cadre constitutionnel et qui se fait aussi dans un contexte international qui est intéressant parce que d'un côté, bien sûr, il y a une partie de l'establishment britannique qui est derrière cette ascension. C'est pas forcément Curzon qui est très déçu que son accord n'a pas pu marcher, mais ces autres forces qui ont voulu réduire la présence. Et ils sont aussi envoyés pour exécuter le coup d'État un général, monsieur Ironside, qui était connu pour les retraites organisées et bien exécutées, pas un homme d'attaque. Et de l'autre côté, quand même, c'est important, aussi avec l'Union soviétique ou la Russie soviétique qui devient l'Union soviétique en 1922, on a des relations cordiales qui ne sont pas contre Reza Shah du tout, ou Reza Khan qui devient Reza Shah. Il y a un accord qui est le fruit des efforts diplomatiques des gouvernements Roger, qui rentre en vigueur au même, qui est signé, disons, au moins, au même moment où il y a les coups d'État, mais qui n'est pas le fruit de Reza Shah. Donc, changement des dynasties par vote parlementaire, et maintenant, bien sûr, finalement, ce qui se fait est que sous cette règne de ce monarque, qui est au début dans un cadre assez constitutionnel, donc, on commence à s'attaquer à ce programme de la révolution constitutionnelle, de modernisation, de construire des infrastructures dans le pays, de moderniser l'armée, bien entendu, Reza Shah, finalement, s'attaque même à la question du pétrole en 1933. Voilà. Donc, c'est un programme de modernisation. Là, ce qui est aussi, et ça c'est déjà dans le clip que vous avez joué, visible, de plus en plus à l'aune d'un règne d'un homme qui est autoritaire.
Ouais, parce que c'est ça aussi ce pouvoir Pahlavi, un pouvoir autoritaire. Moi, quand je regarde la chronologie, je vois qu'il abdique en 1941. Le portrait que vous me présentez, Oliver Bast, me laisse pas penser que Reza Shah est le type d'homme à abdiquer, pouvoir autoritaire, qui contrôle tout. Comment expliquer cette abdication? Qu'est-ce qui se passe en 1941?
Oui. Donc ce programme de modernisation autoritaire se continue et dans les années 30, voilà, vraiment on vire presque vers la dictature. Reza Shah aussi se débarrasse un peu de ses camarades de chemin, beaucoup des hommes qui ont joué un rôle extrêmement important dans l'exécution de ce programme de modernisation trouvent la mort ou se suicident, des ministres importants ce programme-là qui a été exécuté, qui concernait la judicative aussi, l'éducation, donc parce que c'est étatisme, l'État s'occupe des choses dont il ne s'est pas occupé auparavant. C'est la modernisation, c'est la modernité. Et une fois de plus, c'est le cadre international qui va jouer. Et à la fin des années 30, il y a aussi une croissance, une fois de plus, de l'Allemagne, de l'influence de l'Allemagne. L'Allemagne devient le partenaire commercial numéro un d'Iran vers la fin des années 30, au début des années 40. Et c'est le cadre de la Deuxième Guerre mondiale qui maintenant impacte une fois de plus sur l'Iran. Et c'est dans le cadre de cette Deuxième Guerre mondiale que Reza Shah va être finalement forcé à l'appliquer, à l'application, parce que l'Iran se trouve à une alliance, une fois de plus, entre les Russes, en la forme de l'Union soviétique, et les Britanniques, qui mène une invasion de l'Iran en été 1941. Dans le cadre de cette opération, l'armée iranienne n'est pas capable vraiment à résister. Et comme Reza Shah a été portraité comme étant le problème, soi-disant vraiment ayant ouvert la porte à l'influence allemande, tandis que c'est pas si facile que ça. Et c'est plutôt un prétexte. Il y a des raisons stratégiques de la part des soviétiques et des britanniques d'exécuter cette invasion. Et il n'est pas question qu'il reste. Et les puissances décident qu'il faut se débarrasser de lui. Mais il accepte que son fils, Mohammad Reza, va accéder très jeune à ce moment-là, au trône. Voilà.
Avec ici, donc en 1941, l'abdication de Reza Shah et l'arrivée donc de son fils. C'est vrai que jeune homme, il a la vingtaine, hein. Mohammad Reza Shah, un nouveau Shah pour l'Iran.
بی تا
Golebi Goldum, je le prononce sans doute mal, hein, gougauche, en 1971 dans Le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Abou, à la technique Élise Le, l'Iran n'est pas la vie, portrait d'une dynastie, Salomé Michel. Quand en 1941, ce jeune Mohammad Reza Shah Pahlavi prend la succession de son père, s'inscrit-il justement dans les pas de son père, sachant que l'homme, le premier des Pahlavi, était contesté?
Alors, il le souhaite en tout cas, déjà pour reprendre à son compte, voilà le bilan de modernisation et de renforcement de l'État-nation, si vous voulez, qui a été entrepris durant le règne de son père. Ça, c'est un héritage que va revendiquer. Enfin, voilà, cette capacité à affirmer l'État, à affirmer l'État central et à moderniser dans tous les domaines, du technique, si vous voulez, jusqu'au culturel, le pays. Ça, c'est un héritage que va revendiquer. Mohammad Reza Pahlavi, et notamment en développant aussi voilà une historiographie finalement de l'arrivée au pouvoir de son père, du règne de son père comme étant en quelque sorte l'intervention le fruit de l'intervention de voilà d'un sauveur qui va jusqu'à hisser son père au niveau de voilà véritablement d'un sauveur de l'Iran qui se pose en contraste avec le chaos qui aurait été celui de la fin de la période Qajar, de la Première Guerre mondiale, etc. Donc dans cette mesure-là, effectivement, il y a une volonté de se revendiquer de l'héritage de son père. Dans un premier temps, cependant, le jeune monarque n'a pas nécessairement les moyens, donc on est quand même il accède au trône au titre enfin au statut de d'empereur Pahlavi dans un contexte assez trouble, assez troublé, qui est celui quand même d'une occupation étrangère de son pays, et qui est aussi celui d'une agitation politique qui puisqu'en réalité cette période qui donc la première partie si vous voulez de son règne de 41 à 46 ça va être une période d'ébullition en quelque sorte politique puisqu'on va avoir une certaine détente justement par rapport à vraiment l'autoritarisme de son père dans les dernières années la censure va s'adoucir etc et on va avoir voilà des partis politiques qui vont se former etc et on va avoir aussi à l'échelle voilà institutionnelle une période de très très grosse instabilité dans la mesure où entre 41 et 46 pour vous donner une idée on va avoir 10 mandats de premier ministre donc 8 premiers ministres différents mais pour 10 mandats distincts donc c'est quand même enfin vous voyez aussi le degré d'agitation qui peut régner et puis voilà on a aussi un autre événement qui va venir fragiliser l'image du souverain qui est la crise d'Azerbaïdjan donc en 1946 qui va être voilà vraiment une mise à mal de la souveraineté iranienne et donc dans les premières années on a une volonté de se réclamer du règne du père de Reza Shah mais pas vraiment les moyens de le faire par la suite par contre et notamment à partir justement du renversement de Mossadegh donc on pourra revenir sur la question de donc
déjà avant de le renverser faisons le parler
auditeur de la radiodiffusion française le président Mossadegh vous parle
chers auditeurs. Je suis heureux de recevoir aujourd'hui le représentant de la radiodiffusion française et de transmettre à ses auditeurs le salut du peuple iranien, uni par de longues relations, nos deux nations ont au moins un point commun. Chacune d'elles est un foyer intellectuel qui rayonne bien au-delà de ses frontières et de même que la civilisation française, la culture iranienne a contribué au progrès de l'humanité. Il y a quelques années, le mouvement national iranien a entrepris la lutte pour mettre fin définitivement aux entraves apportées depuis plus d'un demi-siècle à notre indépendance et à notre prospérité par l'ancienne Anglo-Iranian Oil Company. Nous avons commencé les réformes indispensables au relèvement économique du pays que nous poursuivrons jusqu'au but fixé. Et je suis certain que l'opinion française, toujours champion des causes justes, nous donnera son appui unanime.
Je vous remercie infiniment, Excellence.
En septembre 1953, Mohamed Mossadegh, aux actualités françaises, Salomé Michel, il est Premier ministre à ce moment-là du Shah d'Iran. Qu'apporte-t-il durant le temps où il est Premier ministre 1951-1953? Parce que je sens bien ici qu'avec ce personnage, il se joue quelque chose.
Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment un personnage central, non seulement du règne de Mohammad Reza Shah Pahlavi, mais aussi plus généralement du XXe siècle iranien. L'épisode Mossadegh, ça va être voilà vraiment une personne, une figure qui va rallier autour d'elle les énormément de partisans venus de bords quand même assez divers dans le cadre de ce qui va s'appeler donc le Front National. Et donc ce personnage de Mossadegh va quand même réussir à réunir voilà un soutien assez fort, et notamment aussi le soutien d'une partie de la population. Alors avec la pratique du pouvoir entre guillemets, ce soutien va s'éroder en quelque sorte un petit peu, notamment à partir du moment où voilà la nationalisation du pétrole va apporter avec elle tout un lot de complications qui n'étaient pas prévues nécessairement, ou du moins qui avaient peut-être été un petit peu sous-estimées, et donc créer des difficultés économiques qui vont venir ternir en quelque sorte et affaiblir ce soutien de la population, au point que voilà à la veille de son renversement en août 1953, on a quand même toute une partie des anciens alliés de Mossadegh, de ses anciens soutiens, qui va se désolidariser de lui. Et donc, on a aussi un Mossadegh qui est relativement affaibli au moment où il sera renversé.
Et puis, la CIA aussi qui intervient en coulisses, bien sûr, parce que c'est ce que nous disons régulièrement, justement, pour éviter tout gouvernement qui pourrait, dans le contexte de la guerre froide, enquiquiner les intérêts des États-Unis. Est-ce que c'est réel ?
Tout à fait. Alors Mossadegh, c'était aussi voilà quelqu'un qui effectivement portait un nationalisme que le Shah lui-même plus tard qualifiera notamment de négatif, dans le sens où c'était voilà une volonté de désigner comme enfin de porter, si vous voulez, l'orgueil blessé aussi de la nation iranienne vis-à-vis des occupations étrangères successives, etc. Et donc le fait que, et ça on a donc ça, si vous voulez, les archives ont été déclassifiées en quelque sorte, il n'y a pas si longtemps, donc c'est l'intervention donc des services secrets britanniques et américains dans son renversement est quelque chose qui n'a pas été véritablement discuté, si vous voulez, en tout cas pas sous le règne de Mohammad Reza Shah, puisqu'on va avoir ensuite des commémorations de ce renversement de Mossadegh comme étant voilà un soulèvement national, un point c'est tout. Mais effectivement, les pouvoirs britanniques et américains, et en particulier à ce moment-là américains, vont jouer un rôle très important aussi, il faut le rappeler, parce qu'on est quand même au début de la guerre froide, dont la crise d'Azerbaïdjan avait peut-être été une des premières manifestations vraiment palpables, et donc effectivement l'Iran continue de constituer un enjeu géopolitique majeur, et pour notamment aussi voilà pour les États-Unis.
Oliver Bass, est-ce qu'on peut imaginer résumer le pouvoir de Mohammad Reza Shah en disant que, un peu comme son père d'ailleurs, et comme beaucoup de dictateurs, il évolue vers des formes d'autoritarisme. C'est-à-dire que dans les premiers temps, il y a des volontés de réforme, de poursuivre les réformes, et puis que, ben, peu à peu, ça devient un pouvoir de plus en plus autoritaire.
Laissez-moi d'abord nuancer un tout petit peu cette affaire Mossadegh. Il est clair, cette question de pétrole est centrale pour tout projet de modernisation, parce que je vous ai dit que ça qui était réservé aux Iraniens au début était minime. Ça a été amélioré sous le règne de Reza Shah en 1933. Le projet qui a été mené était justement ce ministre de la Cour donc qu'on a écouté au début, puis finalement c'est Reza lui-même qui s'en occupait avec des résultats mitigés, mais quand même c'était amélioré et ça a donné des ressources stables pour mener à bien cette programme de modernisation. Par exemple, la construction du chemin de fer transiranien. Il y a un bilan de Reza Shah qui est quand même considérable en ce qui concerne l'établissement d'un État-nation. Mais ce problème de pétrole a été réglé seulement à moitié. Et c'est là où donc cet homme d'État qui est Mohamed Mossadegh envoie, arrive et fait ça sa cause. Quelqu'un qui a fait un doctorat en Suisse, qui parle parfaitement français, et qui est vraiment maintenant d'avis, il faut qu'on améliore encore les deals. Et ça a donc s'est soldé par les résultats dont on a parlé. Mais oui, influence des Britanniques et des Américains, mais aussi des Iraniens. Il y a un problème dans l'historiographie. De cette période, ou de toute façon de la période Pahlavi, on a tendance à exagérer la main et l'influence des forces étrangères. Il faut vraiment s'intéresser à l'agenceur, c'est ma traduction du mot anglais « agency », des Iraniens. Il y avait aussi des Iraniens qui ont participé dans les mesures contre Mossadegh. Il y a des élites iraniens qui sont d'accord avec son renversement et qui ont joué un rôle. Et donc, c'est une confluence d'intérêts qui aboutit à son renversement. Mais parlons du règne de Mohamed Reza Pahlavi. En effet, c'est difficile à le qualifier comme une dictature, mais c'est un régime autoritaire qui reste dans les structures de la constitution et du parlement, tout ça reste en place, mais il y a des éléments où ce n'est plus constitutionnel dans l'exécution. Mais c'est pas vraiment... On pourrait dire que son père est viré vers la dictature vers la fin de son règne. Mohamed Reza Shah Pahlavi, c'est un régime du règne de Mohamed, vers la fin notamment, et Salomé connaît ça encore beaucoup mieux que moi, c'est une période d'un régime autoritaire, mais où il y a du progrès fait dans ce programme de modernisation. Notamment aussi en ce qui concerne, par exemple, l'émancipation des femmes. Là, il y a beaucoup de progrès qui est fait.
Oui, parce que Salomé Michel, c'est la difficulté de définir un régime. Le régime de Mohamed Shah Pahlavi, c'est pas une dictature au sens où il y a tous les moyens juridiques d'avoir une démocratie, sauf qu'il n'y a pas la démocratie, mais il y a des éléments, des amorces démocratiques.
Oui, tout à fait. Alors bon, on a quand même une vie partisane relativement agitée, bien que contenue et contrôlée. Et puis on a aussi, voilà, effectivement, une volonté de démocratiser progressivement, et notamment parce que voilà, le Shah à un moment donné va être soucieux de l'état du pays qu'il laissera donc à son fils, le prince héritier Reza, au moment de la succession. Et donc il y a des aménagements qui vont être prévus, et notamment un aménagement politique qui peut paraître surprenant, qui est la création du parti Lastarhiz, donc un parti unique en 1975, donc dont tout le monde pense en réalité qu'il a été vraiment une catastrophe annoncée, une coquille vide, et qu'il est le parachèvement du caractère dictatorial du régime, alors que en réalité c'était du moins l'intention qui présidait à sa création était aussi d'organiser d'autres canaux de dialogue avec la population, etc., au-delà du bipartisme qui était considéré comme étant en quelque sorte sclérosé. Donc effectivement, il y a une volonté, disons, extrêmement maladroite sur la fin, mais quand même qu'on pourrait analyser aussi plus en détail, voilà, de démocratiser.
C'est ce que vous nous permettez de faire, Oliver Bast, Salomé Michel. Merci beaucoup, parce que grâce à vous, nous avons tous les éléments pour saisir ce qui se passe en Iran dans les années 1970. Merci vivement. C'est le prochain épisode du cours de l'histoire, les années 1970 et particulièrement l'année 1979, avec une révolution confisquée.
En Iran, des milliers de personnes sont allées se recueillir sur les tombes des victimes des massacres de la semaine dernière, une journée de deuil décidée par les religieux chiites opposés au régime et qui s'est déroulée sans incident. Pendant ce temps, l'épuration continue parmi les personnalités politiques. Deux anciens ministres du Shah ont été arrêtés aujourd'hui. On comprend dans ces conditions que certains cherchent à se réfugier à l'étranger.
C'était le cours de l'histoire sur France Culture. Merci à Sébastien Baer, correspondant Radio France à Berlin, qui nous a permis ce duplex. Et merci aussi à Jeanne Delecroix, Raphaël Laloum, Jeanne Copet. Merci à Sidonie Lebeau et Mayouen Guizhou. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur franceculture.fr. et l'appli Radio France.